Troisième partie. Chapitre 41. Arman tomba dans les ténèbres aux côtés d'Ariel pendant ce qui lui sembla une éternité. Lorsqu'ils atterrirent, ce ne fut pas au pied du Golden Gate à Machu Picchu, mais dans une jungle au sol couvert d'un épais tapis d'humus, une réception en douceur alors qu'ils s'attendaient à un crash. L'espace d'une seconde, il s'émerveilla d'être encore vivant, puis il se releva en hâte, voulut pousser Ariel, qui s'était déjà écarté d'un entrechat, et fixa l'obscurité en clignant des yeux. Le noir total. Il faisait jour au Golden Gate. Il se trouvait donc ailleurs, au cœur de la jungle, quelque part dans l'hémisphère nocturne. L'air, imprégné d'une forte odeur de pourriture, était si humide qu'il lui collait à la peau comme un linge mouillé. Sa chemise était déjà trempée de sueur, et tout autour de lui résonnait le bourdonnement des insectes, le bruissement des feuilles et des lianes, plus quantité de rumeurs moins aisément identifiables. Il leva les poings le temps que ses yeux aient accommodé, espérant qu'Ariel reviendrait à sa portée, et se tourna vers le ciel, entrevoyant quelques étoiles au travers d'un épais feuillage. Au bout d'une minute, il distinguait la silhouette pâle et asexuée d'Ariel qui se tenait à 3 mètres de lui sur un tapis de feuilles.
« Ramenez-moi !» gronda Arman.
« Te ramener où, cela ?»«
Au Golden Gate, ou à Ardis, mais faites vite !»«
Je ne le puis. » Cette voix asexuée commençait à lui porter sur les nerfs.
« Emmenez-moi !» répéta Arman. « Et tout de suite !»« Je ne sais pas comment vous avez fait pour venir ici, mais ramenez-moi tout de suite !»«
Quelles seraient les conséquences d'un refus ?» demanda d'une voix amusée la silhouette luminescente.
« Je vous tuerai !»
répondit Arman sur un ton des plus posés. Et il n'hésiterait pas à le faire. Il allait étrangler cette frêle créature verpale, l'étouffer sans pitié et cracher sur son cadavre. « Et ensuite, tu te retrouveras perdu dans une jungle inconnue !» l'avertit la voix de la raison. Arman décida de faire la sourde oreille.
« Oh, tu serais donc capable de me pincer à mort !»
dit Ariel en feignant la terreur. Arman se jeta sur lui. L'être minuscule, 1m20 à peine, le saisit au vol et le catapulta à travers le feuillage, l'envoyant s'écraser sur l'humus à 10 mètres de là. Arman mit une minute à reprendre son souffle et une autre à se redresser sur ses genoux. Il se rendit compte que si Ariel l'avait fait atterrir ailleurs, sur un mur du Golden Gate à Machu Picchu par exemple, il se serait cassé le cou. Une fois debout, il se concentra pour scruter l'obscurité et regagna la clairière où l'attendait Ariel, se frayant un chemin parmi les branches et les lianes. Le farfadet n'était plus seul.
« Oh, regarde ! Voici d'autres moi-même » dit-il d'une voix joviale.
Une 50aine de créatures avaient envahi la clairière et on en distinguait d'autres sous les arbres. Ces êtres n'étaient pas humains. Mais ce n'étaient pas non plus des Voynix ni des Calibani. En fait, jamais Arman n'avait vu de semblables bipèdes durant ses 90 ans et 9 mois d'existence. On aurait dit des esquisses d'hommes, aussi minuscules qu'Ariel, avec comme lui un épiderme vert pâle sous lequel des organes flottaient dans un liquide de la même couleur. Mais là où Ariel avait des lèvres, des joues, un nez et des yeux humains, ces petits hommes verts n'avaient que de grands globes oculaires tout noirs. En les découvrant dans la pénombre, Arman pensa à des boulets de charbon. Et leurs corps étaient tous strictement identiques. La même silhouette fluide, les mêmes mains à 3 doigts.
« Je ne pense pas que tu aies déjà rencontré mes frères secourables, »
dit Ariel d'une voix douce, désignant la foule d'humanoïdes d'un geste féminin.
« Ces instruments affectés à ce bas monde ont été vomis bien avant la naissance de ton espèce. Ils ont quantité de noms. Sa prospérité les baptise volontiers selon son bon plaisir. Mais nous sommes fort semblables, eux et moi, vu que nous descendons de la chlorophylle et des cirons qui parcouraient la forêt avant l'avènement des post-humains. Voici les ex, à la fois auxiliaires, ouvriers et prisonniers. Mais n'est-ce pas là notre lot à tous ?
Arman fixa les humanoïdes verts. Ils lui rendirent son regard.
« Emparez-vous de lui !» susurra Ariel.
4 ex s'avancèrent, Il se déplaçait avec une grâce surprenante chez des créatures aussi frustes, et avant qu'Arman ait pu s'enfuir ou leur résister, deux d'entre eux lui enserrèrent les bras de leurs mains à trois doigts. Le troisième s'approcha de lui, jusqu'à ce que son torse touchât le sien, et le quatrième saisit sa main, tout comme Ariel avait saisi celle d'Anna peu de temps auparavant, pour la plonger dans le thorax de son congénère. Arman sentit un cœur tout mou se nicher dans sa paume, comme un animal familier, puis entendit dans son crâne résonner un discours muet.
« N'énervez pas, Ariel. Il vous tuera par caprice. Venez avec nous et ne cherchez pas à résister. Il est dans votre intérêt et dans celui de votre dame, Ada, de venir avec nous, vite. »
« Comment se fait-il que vous connaissiez Ada ?» s'écria Arman.
« Venez. »
À l'issue de cette ultime transmission, on arracha sa main au torse du Zek transmetteur, dont le cœur, un instant mis à nu, ne tarda pas à se flétrir, puis la créature s'effondra en silence sur l'humus, où elle eut vite fait de subir le même sort. Sans prêter la moindre attention à son cadavre, Ariel et les autres ex s'engagèrent sur un sentier à peine visible pour s'enfoncer dans la jungle. Arman était toujours serré de près par deux des créatures, qui avaient toutefois relâché leur étreinte, et sans chercher à leur résister, il se mit en marche lui aussi, veillant à ne pas se faire distancer. L'esprit d'Arman tournait à plein régime tandis qu'il s'avançait en trébuchant dans l'obscurité. Parfois, quand le feuillage devenait trop épais, il n'y voyait plus goutte, même ses jambes et ses pieds lui devenaient invisibles. Aussi se laissait-il guider comme un aveugle, en profitant pour s'abîmer dans ses réflexions. S'il voulait revoir Ada et le château d'Ardis, il devait se montrer bien plus intelligent qu'il n'y était parvenu durant les mois écoulés. Première question. Où était-il? Il avait quitté le Golden Gate à Machu Picchu par un matin nuageux, mais la nuit était déjà fort avancée dans cette jungle. Il s'efforça de se rappeler ses connaissances géographiques, mais cartes et globes terrestres se brouillaient dans son esprit. Des mots comme Asie et Europe lui paraissaient soudain dénués de sens. À en juger par les ténèbres qui régnaient autour de lui, cependant, Ariel ne l'avait pas transporté en un autre point du continent où était si le Golden Gate. Il lui serait impossible de marcher jusqu'au Machu Picchu où se trouvaient Anna, Petyr et le Sony. D'où une deuxième question. Comment Ariel l'avait-il conduit ici? Il n'avait vu aucune plateforme fax dans les globules verts du Golden Gate. S'il y en avait une, et jamais sa vie n'avait envisagé de gagner le Golden Gate en se faxant, il n'aurait pas eu besoin du Sony pour transporter Odysseus dans sa crèche de soins, ni pour aller récupérer des armes et des munitions. Non. Ariel avait utilisé un autre moyen pour l'amener en ce lieu obscur, bourbeux, pourrissant et grouillant d'insectes. Comme l'avatar de la biosphère, ainsi identifié par Prospero, ne marchait que trois pas devant lui, Arman se rendit compte qu'il pouvait lui poser ses questions à haute voix. Dans le pire des cas, le farfadet, dont le corps vert pâle devenait visible par intermittence chaque fois qu'il traversait une clairière, y répondrait par le mutisme. Ariel commença par la seconde question.
« Je jouirai de ta compagnie quelques heures encore. Ensuite, je te livrerai à mon maître. Quand nous aurons entendu le fier Chanteclair, quoique je doute fort qu'il hante ces parages. »
Votre maître, c'est Prospero?
Ariel ne répondit point.
Alors comment s'appelle cet endroit?
Le farfadet partit d'un rire cristallin qu'Arman se surprit à trouver plaisant à l'oreille.
Il devrait se nommer le berceau d'Ariel, car c'est ici, il y a 15 fois 200 ans, que je suis venu à la conscience. Issu d'un milliard de capteurs transpondeurs que les antiques humains à l'ancienne, ta propre espèce, mon cher hôte, appelaient les Sirons. Les orbes devisaient entre eux et avec leur maître humain, papotaient dans la vieille toile moisie d'où allait naître la nousphère, parlant de température, de nids d'oiseaux, de jeunes pousses, de mesures de pression osmotique, et s'efforçant de quantifier la photosynthèse comme un employé aux écritures qui prendrait ses livres et ses bouliers pour un trésor. Les ex, mes bien-aimés serviteurs, que ce monstre et mage de maître a osé réquisitionner en nombre pour les faire trimer sur la planète rouge, ont connu semblable genèse, oui, mais pas ici, ô haute honorée, non, pas ici.
Harman ne comprit quasiment rien à cette tirade, mais il avait réussi à faire parler Ariel, et s'il le laissait poursuivre, il finirait tôt ou tard par apprendre quelque chose d'important.
« Il y a 9 mois, j'ai rencontré Prospero, votre maître, sur son île orbitale, et il vous appelait l'avatar de la biosphère. »«
Si fait !» dit Ariel en riant. « Et ce Prospero, que tu dis mon maître, je l'appelle sac à merde. »
Ariel se tourna vers lui, et son fin visage vert pâle brilla comme une plante tropicale phosphorescente lorsqu'ils s'engagèrent dans une partie de la forêt particulièrement sombre.
Harman, époux d'Ada, ami de personne, tu es à mes yeux un homme pervers. Un homme dont la destinée a son importance, à tout le moins en ce bas monde. Pour sa forme plutôt que pour sa substance. Entre tous les hommes, tu es le moins digne de vivre. Toi dont 5-20 années de préparation devaient faire un festin pour frère Caliban. Car le temps et les marées du temps t'ont rendu fou. C'est animé de pareilles valeurs que les hommes se pendent ou se noient.
Harman comprenait de moins en moins, et en dépit de ses questions répétées, Ariel conserva un silence obstiné jusqu'au lever du soleil, qui ne survint que 3 heures plus tard, à l'issue de plusieurs kilomètres de marche. 1 heure après qu'Harman eut décidé qu'il était au bord de l'épuisement, on lui accorda une pause et il s'adossa à un gigantesque rocher pour reprendre son souffle. Comme l'obscurité se dissipait, il constata que ce rocher n'en était pas un. Il s'agissait en fait d'un mur qui faisait partie d'un édifice à plusieurs niveaux, sans doute un temple s'il fallait en croire les livres qu'il avait siglés. Puis Harman prit conscience de ce que voyaient ses yeux, de ce que touchaient ses mains. Tous les murs du temple étaient recouverts de sculptures. Certaines étaient de belle taille, d'une largeur correspondant à la longueur de son bras, mais la plupart étaient si petites que sa main aurait suffi à les recouvrir. Sur chacune de ces sculptures, le soleil tropical perçant les frondaisons les rendait de plus en plus nettes, on voyait des hommes et des femmes faire l'amour. Mais il y avait aussi des accouplements entre un homme et plusieurs femmes, entre plusieurs hommes, plusieurs femmes, et même des groupes. Et à certains de ces groupes se mêlaient des chevaux, des éléphants, des taureaux, des singes. Harman en resta figé. Jamais il n'avait vu un tel spectacle en plus de 99 ans d'existence. La sculpture la plus proche de lui dépeignait un homme dont le visage était enfoui entre les cuisses d'une femme, laquelle engloutissait le pénis d'un deuxième homme chevauchant le premier, tout en étant pénétré par l'arrière du pénis artificiel d'une deuxième femme et en caressant d'une main un animal en érection, en lequel Harman reconnut une cavale, comme on disait dans l'épopée du Turin. De l'autre main, elle excitait un troisième homme qui se tenait à côté de l'étalon. Harman recula d'un pas pour embrasser du regard le mur envahi de lianes. Il y avait des milliers, voire des dizaines de milliers, de sculptures semblables, qui lui révélaient des variations de l'acte sexuel dont il n'aurait jamais imaginé, jamais pu imaginer l'existence. Rien que la participation des éléphants. Les personnages humains étaient stylisés, visages et seins ovales, yeux en amande, lèvres masculines et féminines dessinant des sourires ravis et décadents.
Quel est donc cet endroit ? Souffla-t-il.
Ariel chanta d'une voix de fausset.
« Là-haut, entre aperçus au sein de la pénombre, s'expose l'art étrange de ce peuple des ombres. Que disaient à ceux qui sont aujourd'hui poussière ces corps qu'animent encore les plaisirs de la chair ?»«
Quel est donc cet endroit ?» insista Harman.
« Kajurao. » répondit Ariel.
Cette fois-ci, sa réponse était la simplicité même, sauf que ce mot ne signifiait rien pour Harman. Sur un geste du farfadet, 2 des petits ex, qui semblaient à présent transparents, le prirent par le bras et la procession s'éloigna bientôt du temple, empruntant un sentier tout juste visible. Lorsqu'Harman jeta un dernier regard à l'édifice, il vit qu'il y en avait en fait plusieurs, tous recouverts de frises érotiques, et il remarqua une nouvelle fois que la jungle avait quasiment dévoré l'ensemble architectural. Les fornicateurs étaient ligotés par la vigne vierge, étouffés par la mousse, étranglés par les lianes et les racines. Puis le lieu dénommé Cajurao disparut au sein de la verdure, et Arman se hâta pour ne pas être distancé par Ariel. À mesure que le soleil illuminait la végétation autour d'eux, jamais Arman n'aurait imaginé qu'il existât autant de nuances de vert, il chercha désespérément un moyen de retourner à Ardis auprès d'Ada, ou à tout le moins au Golden Gate avant que Petyr ne décolle aux commandes du Sony. Il ne tenait pas à attendre 3 jours, délai au bout duquel le jeune homme reviendrait rechercher Anna et personne Odysseus, à condition que la crèche ait pu guérir celui-ci. Ariel ? Lança-t-il soudain au petit être vert qui semblait flotter à l'avant-garde de la colonne de Zex.
« Sire ?»
Arman était de plus en plus troublé par la qualité androgyne de sa voix. « Comment avez-vous fait pour me transporter du Golden Gate à cette jungle ?»«
Le voyage fut-il donc trop rude, ô homme ?»«
Non, non !» répondit Arman, qui redoutait de voir le farfadet se lancer dans une nouvelle tirade incompréhensible. « Mais comment avez-vous fait ?»
« Comment voyages-tu d'un endroit à un autre quand tu ne voles pas dans ta soucoupe ?»«
Par fax. Mais il n'y a pas de pavillon fax au Golden Gate. Il n'y a même pas de nœud fax. » Ariel s'éleva dans les airs, effleurant les branches et arrosant Arman et les ex de multiples gouttelettes.
« Ton ami Daeman s'est-il rendu dans un pavillon fax lorsqu'un allosaure l'a croqué il y a 10 mois de cela ?»
Arman se figea sur place. Les ex qui l'encadraient firent halte un instant.
« Mais oui » songea-t-il. « Il aurait dû y penser depuis longtemps. »
La procédure lui était familière dès sa naissance ou presque. Mais jamais il n'avait fait la déduction qui s'imposait. Quand un homme ou une femme se faxait dans les anneaux au moment d'un vin, il ou elle se rendait au pavillon le plus proche. Quand on souhaitait se déplacer, on se rendait au pavillon le plus proche. Mais quand on était blessé, voire accidentellement tué comme cela était arrivé à Daeman, c'était les anneaux qui effectuaient le fax. Lorsqu'il se trouvait dans la firmerie, sur l'île orbitale de Prospero, Arman avait vu les corps nus de ses semblables arriver dans les cuves remplies de nutriments et d'asticots bleus, puis en repartir une fois les soins achevés. Obéissant aux instructions de Prospero, Daeman et lui avaient court-circuité la procédure, détruisant les serviteurs et renvoyant sur Terre le plus de patients possible. Un humain pouvait se faxer sans passer par un pavillon, sans se rendre dans l'un des 400 et quelques nœuds fax recensés. Arman l'avait vu faire quantité de fois pendant presque 100 ans, mais il n'avait rien vu. Tout le monde savait que les post-humains se chargeaient de tout quand un humain était grièvement blessé ou mourait avant l'échéance de ses 5 vins. Les nœuds fax relevaient de la science. Un séjour d'urgence à la firmerie relevait presque de l'expérience religieuse. Sauf que la firmerie de l'île de Prospero était équipée de machines capables de faxer sans l'aide d'un nœud ni d'un pavillon. Et Arman et Daeman avaient détruit la firmerie et l'île de Prospero. Les ex le tirèrent gentiment par les bras pour le faire avancer. Arman resta immobile quelques instants de plus. Les pensées qui lui agitaient le crâne étaient vertigineuses. Si les ex ne l'avaient pas tenu, peut-être serait-il tombé par terre. L'île de Prospero avait été détruite, déclenchant une averse météorique que tous les humains à l'ancienne avaient pu contempler durant des mois. Mais Ariel était encore capable de se faxer tout seul, de pratiquer une sorte de libre fax, sans avoir à dépendre des nœuds et des pavillons. Une machine dissimulée dans les anneaux, voire sur Terre, localisait le farfadet, le codait et le faxait, et Arman avec lui depuis peu, ce qui leur avait permis d'aller du Golden Gate à Cajurao, d'un bout à l'autre de la Terre. Arman serait en mesure de se faxer à Ardis, à condition qu'il persuade Ariel de lui révéler le secret de ce libre fax. Les ex le tirèrent à nouveau avec un peu plus d'insistance. Ariel avançait loin devant, flottant en direction d'une trouée lumineuse dans la jungle. Arman ne voulait pas attirer des ennuis aux ex, pas plus qu'il ne voulait perdre Ariel de vue. Le farfadet était le seul moyen dont il disposa pour rentrer chez lui. Arman courut pour rattraper l'avatar de la biosphère terrestre. Lorsqu'ils arrivèrent dans la clairière, le soleil était si éblouissant qu'Arman se protégea les yeux, et plusieurs secondes s'écoulèrent avant qu'il ne découvre la structure qui se dressait devant lui. Lorsqu'il la vit, il en resta paralysé. Cette structure, ce n'était pas un immeuble à proprement parler, était gigantesque, et Arman, qui était doué pour estimer les dimensions,
la jugea haute de 300 mètres, peut-être davantage. Elle n'avait pas de façade. Elle consistait en un squelette arachnéen de poutrelles et d'entretoises en métal sombre, un ensemble formé de quatre piliers incurvés, reliés au niveau de la cime des arbres par des arches arrondies et se fondant les uns dans les autres pour former une unique spire s'achevant par une sorte de sphère. Il repensa à une expression qu'il avait entendue dans la bouche d'Anna, leur experte en métallurgie, « du fer forgé ». Arman était sûr que les poutres, les arches, les éperons et les autres composants de cette merveille illuminée par le soleil de la jungle étaient en fer, forgé ou pas. « Qu'est-ce que c'est ?» souffla-t-il. Les ex l'avaient lâché pour se réfugier à la lisière de la forêt, comme s'il redoutait de s'approcher de cette incroyable tour. Arman s'aperçut alors que rien ne poussait à la base de celle-ci, excepté une herbe rase impeccablement tondue. On eût dit que cette structure tenait la jungle à distance par la seule force de sa volonté.
« 7 000 tonnes, » dit Ariel d'une voix nettement plus masculine que celle qu'il avait utilisée jusqu'ici. « 2 500 000 rivets, 4 311 ans d'âge, du moins en ce qui concerne l'original. Les Felban de Khanotep se composent de plus de 14 000 tours semblables. »
Les Felban? Répéta Arman.
Je ne...
Viens! Ordonna Ariel. Sa voix était maintenant carrément virile, une voix à laquelle on ne désobéit pas. La base de l'un des piliers abritait une sorte de cage en fer forgé.
Monte! Dit Ariel.
Il faut que je sache.
Monte!
Et tu apprendras tout ce que tu as besoin de savoir,
répliqua l'avatar de la biosphère. Y compris le moyen de retourner auprès de ta chère Ada.
« Reste ici, et tu mourras. »
Arman entra dans la cage. Une porte grillagée se referma derrière lui. Il entendit claquer des rouages, grincer le métal, et la cage entama son ascension le long du pilier, entraînée par une série de câbles et de treuils métalliques.
« Vous ne venez pas ?»
lança Arman à Ariel. Le farfadet ne daigna pas lui répondre. L'ascenseur continua sa progression vers le sommet de la tour.